Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halou Gmondi.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Sur instruction du président de la transition Bandao, des centaines de maisons situées dans la zone dite aéroportière ont été démolies le 18 janvier dernier. Ils couvriraient une superficie de 1600 hectares, soit 3000 lots attribués illégalement selon les autorités. Certaines maisons étaient en chantier, d'autres étaient déjà bâties. Démolition des maisons dans la zone aéroportière, c'est le thème du Grand Dialogue d'aujourd'hui. Et pour en parler, nous avons Monsieur Sekou Konare, secrétaire général de l'Association malienne des droits de l'homme, et M. Bakary Sanogo, coordinateur des déguerpies de Niamakoro. Bienvenue, moi je suis Mariam Klibali. Le Grand Dialogue. Alors, M. Sanogo, on va s'adresser à vous. La question est de savoir, la démolition de ces maisons a-t-elle été faite conformément à la loi?
Je dirais d'abord merci à Mme Traoré, Mariam Klibali. Et je remercie, je salue tous les auditeurs de Studio Tamani et les téléspectateurs de Studio Tamani. Pour répondre à votre question, je dirais que ça n'a pas respecté les normes. Dans la mesure où les casques ont été parachutés sur nous à 5 heures du matin, sans sommation, le procureur de la commune n'était pas averti. Le maire n'était pas averti. Personne, ils ont décidé de ça et ils ont mis ça en exécution sans sommation. Donc, je peux dire que ça n'a pas été fait dans les normes.
Monsieur Konare, êtes-vous du même avis?
Merci, madame, pour cette invitation d'abord. C'est l'occasion pour moi également de vous remercier. Et quand la presse nous invite pour un tel débat d'envergure nationale, tout le plaisir est pour nous en tant que défenseurs des droits de l'homme de répondre favorablement et de combler vos attentes uniquement dans le but d'édifier le peuple malien.
Merci.
Donc, je ne serai pas directement en porte-à-faux avec l'association des victimes. Je comprends leur position, c'est normal, mais on ne peut qu'apprécier à travers les documents que nous aurons à notre disposition ou les documents sur lesquels nous allons statuer, que nous dirons en réalité, est-ce que ça a été fait dans les règles de l'art, oui ou non. Ça, c'est important. Je crois qu'au fil du débat, je pourrais répondre à cette question.
Est-ce que c'est la construction de ces maisons-là constituait un danger pour la circulation aéroportière, selon vous?
Moi, je ne vois pas le problème sous cet angle. Je vois le problème sous l'angle de la légalité. Est-ce que en réalité, ceux qui ont habité ce domaine avaient des titres ou des droits pour pouvoir le faire? La réponse à cette question nous permettra réellement d'avancer.
Allez-y. Que,
d'accord. Si vous voulez, j'ai dit, la zone aéroportière est connue comme une zone d'utilité publique. Autrement, c'est le domaine public de l'État avec purge de tous les droits coutumiers. Autrement dit, les terres sont immatriculées au nom de l'État du Mali. Et je crois que ça porte sur 7000 hectares en réalité depuis de longues dates. Et ces dernières années, nous avons constaté en réalité qu'il y a une occupation massive, notamment à partir de 2020 même, de ces terres-là par les populations. Maintenant, la question qui me revient et que l'on doit pouvoir se poser, est-ce qu'en réalité les conditions étaient réunies pour habiter cette zone? D'abord, tout le monde sait que, manger un tour des textes, hein, la loi malienne nous dit qu'il faut d'abord un décret d'affectation pris en conseil des ministres pour affecter une zone à telle ou telle collectivité, à la mairie ou à la préfecture. Est-ce que cela a été fait? Est-ce qu'il y a un décret dans ce sens? Est-ce qu'un décret a été pris? Si oui, après ce décret, il y a d'autres actes à vous qui doivent intervenir. Parmi ces actes, je crois qu'il y a l'arrêté d'approbation également du ministre. Parce que logiquement, le conseil des ministres doit prendre un décret pour affecter la zone à la collectivité, soit le maire, soit la préfecture. Au regard de ça maintenant, le maire doit pouvoir faire un plan de lotissement qui sera approuvé par les services techniques compétents de l'urbanisme avec l'environnement. Et au regard de ça maintenant, il y aura un arrêté d'approbation signé par le gouverneur de la région ou bien le gouverneur du district. Est-ce que tous ces documents-là ou bien toutes ces pièces ont été au préalable fournies, vous comprenez, avant que les gens ne partent arrêter de s'installer dans la dite zone? Ça, c'est la question.
Monsieur Sanogo, il parle le texte. Est-ce que vous avez pris connaissance de tous les textes en la matière pour aller vous installer sur ce site-là?
Bon, généralement, au Mali, même les quartiers les plus anciens se sont installés comme ça.
Mais ce n'est pas la première démolition.
Mais ce n'est pas notre cas. Mm-hmm. Nous ne sommes pas venus comme ça. Il y a eu la casse en 95. Le décret 95 avait classé la zone aéroportière à 8720 hectares. Donc en 1999, il y a eu un deuxième décret qui a classé la zone aéroportière à 7194 hectares. Si vous comprenez. Donc la différence, c'est ce que nous avons demandé au gouvernement. Nous sommes dit que comme ça a été réduit de 5 1526 hectares. Il y a eu une réduction de 1528 hectares, alors que là où nous nous occupons maintenant, ça ne vaut pas les 35 hectares. Donc, nous ne sommes pas installés comme ça. Quand on a été voir le maire du district, il nous a fait savoir que lui, c'est un décret qui a cassé. Donc, lui, il ne peut pas. Il faut l'aval de ses supérieurs. C'est dans ce cadre-là qu'on a été voir le ministre de l'administration territoriale, qui nous a dit qu'il connaît des dossiers, puisque quand la casse se faisait en 1995, il était ministre des Transports et de l'Équipement. Donc, après ça, il a échangé avec le maire du district par courrier. Nous avons les courriers là, ici. Ils ont échangé par courrier. Et finalement, le maire du district a accepté. Sinon, quand on a été deux fois le voir, il nous dit qu'il ne peut pas. La troisième fois, il nous a fait savoir qu'il faut aller chez ses supérieurs. Quand on va lui donner quelque chose d'écrit, il va faire. Sinon, lui, il ne peut pas mettre la bouche là-dedans, puisque c'est un décret qui a cassé et c'est un décret qu'il doit remettre. Alors, donc, quand le ministre a donné l'accord au maire du district par lettre confidentielle, c'est en ce moment que le maire du district a commencé à accepter de faire les notifications.
Alors, donc, monsieur Sanogo, si je comprends bien la situation, vous n'êtes pas en faute par rapport à votre installation sur ce site.
Pas du tout.
Vous accusez les autorités.
Pas du tout. Nous accusons les autorités, puisque il faut voir sur le site, il y a des gens, on nous a donné d'abord des notifications de l'État, puisque c'est le maire qui l'a donné, et il y a eu des permis d'occuper donné par les impôts, ainsi de suite, parce qu'on ne peut pas avoir le permis sans payer les frais au trésor. Nous avons des documents qui attestent que le trésor public en a bénéficié. Donc, à partir du moment où la notification sont sorties, les permis sont sortis, on a eu des autorisations de construire. Je vais vous en donner des copies. Qu'est-ce qui nous prouve que ce n'est pas sérieux? On ne peut pas le savoir, puisque dans la mesure où on est monté à Koulouba, on s'est entretenu avec le chef de l'État d'alors. Il nous a rassurés parce que dans la zone-là, il y a des situations là-bas. On n'a pas tout cassé. Pourquoi on n'a pas tout cassé? Si on parle des zones aéroportières, Niamakuru n'est pas dans le plan de vol de l'aéroport. Tout le monde sait que les quartiers qui sont dans le plan de vol, on ne peut pas les toucher.
Donc, vous accusez les autorités d'être partiales dans cette situation.
D'être partiales, trop même. Puisque la zone qu'ils ont cassée là, ça n'a rien à voir avec l'aéroport. Ça n'a rien à voir avec l'aéroport. Maintenant, quand ils ont commencé, quand ils sont arrivés à Serakro, ils ont arrêté. Ils ont replié, toutes les machines sont retournées à Kati. Pourquoi deux poids, deux mesures? Alors qu'au début, on nous avait dit qu'on va casser toute la zone aéroportière, Niamakoro, Faladje, Serakoro, Senou et Gwana. Mais pourquoi après la casse de Niamakoro, on a arrêté? Donc c'était Niamakoro qui était dans l'air rétroviseur.
Monsieur Konare, qu'avez-vous à dire par rapport à, au propos de Monsieur Sanogo?
Moi, je cherche à être encore plus légaliste. Est-ce qu'en réalité, les permis d'occuper qui ont été livrés, est-ce qu'ils ont été livrés conformément à la loi? Est-ce que les autorités qui les ont délivrés...
Les autorités ont attendu que les gens viennent construire sur ce terrain avant de commencer cette démolition. Est-ce qu'ils ne sont pas en faute dans cette situation?
Si vous voulez, je ne voudrais pas a priori accuser, mais plus on avance, on allait suivre les responsabilités. Parce que pour le moins, ce n'est pas l'occasion de dire qui a raison ou qui a tort. Pour moi, c'est le lieu de poser d'abord le problème, diagnostiquer, chercher les causes, vous comprenez très bien, et ensuite situer les responsabilités.
Allez-y.
Voilà. Voilà, c'est ce que moi je voudrais. Mm-hmm. Sinon, je suis d'accord, le président, le secrétaire général de l'association des victimes le dit, ils ne se sont pas installés d'eux-mêmes. C'est à vertu d'un titre, même si le titre est précaire, parce que ça a été donné par une autorité apparemment compétente. Quand un maire ou un préfet donne quand même un papier, et comment vous appelez ça, un permis, ou bien une notification en réalité, ça donne une petite valeur quand même. Pour la notification, c'est autre chose, parce que la notification, elle n'est qu'administrative, il faut qu'on comprenne ça. On t'a dit qu'on te notifie ça pour dire que tu dois payer des frais pour avoir le droit. Mais dès que le permis est créé déjà, il a un droit. Maintenant, ce droit a été créé par qui? Par un maire du district ou bien par un préfet? C'est les représentants de l'État. Vous comprenez donc, il faut apprécier la légalité de ces actes-là maintenant. Ils sont adossés à quoi? C'est ça la question en réalité. En ce moment, on va assurer la responsabilité. Est-ce que le préfet ou le maire du district a outrepassé ses pouvoirs? Est-ce qu'il avait la possibilité de le faire? Est-ce qu'il est autorisé? Est-ce que les règles de l'urbanisme ou de l'habitat ont été respectées? Est-ce que le code domanial et foncier du Mali en République du Mali a été respecté? C'est la réponse à toutes ces questions qui permet réellement de situer les responsabilités.
Oh, je ne sais pas si vous m'avez bien suivi.
Oui. Allez-y.
Si vous avez bien compris,
oui.
Je vous ai dit que quand on est allé voir le maire du district, oui. Il nous a fait savoir qu'il ne peut pas. On a été le voir à trois reprises. C'est à la troisième fois qu'il nous a dit que vraiment, lui, s'il ne reçoit pas l'autorisation de ses supérieurs, il ne peut pas le faire. C'est dans ce cadre-là qu'on a allé voir le ministre de l'administration territoriale.
Donc
lui, là, il y a une lettre confidentielle entre le maire du district et le ministre. Donc, partant de cela, nous ne pouvons pas dire que ce n'est pas légal. Bien vrai qu'il n'y a pas eu de décret entre nous et le maire, mais il y a eu quelque chose qui a poussé le maire à accepter une troisième fois. Parce qu'on a été trois fois, il nous a refusé. Quand on a été voir le ministre a fait une lettre confidentielle à lui. En ce moment, il nous a reçus et on a parlé, on a discuté des modalités.
Donc, monsieur Konare, vous considérez maintenant que tous ceux qui sont sur ce site-là sont des occupants illégaux?
Moi, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, j'apprécie ainsi. Parce que, comme lui-même, il est dit, il me met à l'aise. Une lettre confidentielle ne peut pas remplacer un décret. C'est un décret qui organise en réalité le morcellement et la répartition, vous comprenez. Parce qu'en réalité, je le maintiens, je dis que la zone aéroportière est un domaine public de l'État. Il est inaliénable. Il est imprescriptible. Vous comprenez? Donc, moi, je me demande comment est-ce qu'un maire peut aller morceler et vendre ce domaine à un particulier.
Non, il n'a pas vendu. Je corrige ça, il n'a pas vendu.
Qui sont les vendeurs?
Personne n'a vendu. Ce sont les décrets. En 1995, ils ont cassé 4712 concessions. En 92. Quand on a fait la démarche, on a recasé certains à Thiébani. C'est ce qu'ils disent maintenant que tous les décrets de Thiébani ont été recasés à Thiébani. Sur 4712, 1005 ont été recasés à Thiébani. Et le reste. Quand j'entends certains dire que et ils ont été recassés à Thiébani, ils ont tous pris des choses, de compensation, rien. Les gens ont été recassés, un point, c'est tout. Personne n'a réussi quoi que ce soit comme indemnité.
Des observateurs disent que les premiers déguerpis ont tous été dédommagés.
Non, pas du tout. C'est ce que j'ai bien de dire. Nous, on a participé à ça. C'était dirigé par Feu Konaté, Omar Konaté, celui qui se voit notre quartier. C'était dirigé par ça. On avait prévu 2000 pour Niamakoro, mais on a donné 1005. Et les 95, où sont-elles parties?
Monsieur Konaré, est-ce qu'on peut dire qu'à travers cette action, la lutte contre la spéculation foncière est lancée au Mali?
Mais je crois qu'elle était déjà lancée il y a longtemps. En réalité, il y a eu beaucoup de foras autour, en réalité, de cette spéculation foncière en République du Mali. Les recommandations ont été faites. C'est une bombe dont il s'agit pour l'État de la désamorcer. Je prends un exemple. Il ne faut pas que on apprécie, cette lutte n'a pas commencé aujourd'hui. Je crois qu'il y a deux ans, sinon en 2012, il y a eu des luttes. Les institutions judiciaires se sont braquées en réalité contre les maires. Il y a eu des arrestations par rapport en réalité à cette spéculation foncière. Et en 2019 ou 20 récemment, avec un des ministres de la Justice, un célèbre ministre de la Justice que je vais m'abstenir de nommer aujourd'hui, et il a engagé une lutte terrible contre les maires et les préfets par rapport au lotissement et au morcellement illégaux des parcelles appartenant à l'État. Donc la lutte n'a pas commencé aujourd'hui. Peut-être que cette fois-ci, vous comprenez très bien, on est parti directement, ça a été médiatisé, vous comprenez très bien. Sinon, je ne pense pas que ça soit réellement de l'ordinaire.
D'accord. Démolition des maisons dans la zone aéroportière, quelles leçons faut-il en tirer? Nous avons été sur place écouter les victimes, donc nous allons les écouter et prendre en compte leurs revendications.
C'est ma sœur qui réside en France qui a construit cette maison dotée de toutes les commodités. On était en train de faire le carrelage et on l'a démolie. Mes enfants et moi avons passé la nuit chez une amie sous un hangar. Si nous parvenons à construire une case quelque part, sinon on est sans abri. C'est très difficile d'avoir un abri par ce temps. C'est pas vrai. Comment peut-on construire sur une parcelle sans permis? On est dans quel pays? C'est faux. J'avais deux parcelles ici qu'on vient de démolir. Je me remets à Dieu. Lui seul peut trancher entre nous les pauvres et les autorités. Moi, je ne vends que du charbon. On a démoli ma maison sans me montrer là où je dois partir.
Alors, M. Bakary Sanogo, nous venons d'écouter les victimes. Pensez-vous que dans l'état actuel du pays, est-ce que c'était judicieux pour les autorités de la transition de créer d'autres soucis liés au foncier?
Pas du tout, pas du tout. Pas du tout, je dis que c'est pas réfléchi. En tant qu'autorité de la transition, moi je crois que leur préoccupation c'est de faire le Mali nouveau. C'est pas en cassant qu'on fait le Mali nouveau. Il faut essayer de réconcilier les gens. Préparer les élections. Mais contre toute attente, ça c'est ce qu'ils nous ont fait. Vous venez d'entendre des témoins. Tous ceux qui ont construit avec des permis. Tous ceux qui ont construit avec des permis. Et d'où viennent les permis? Ça vient de chez l'État. L'État devait dire, ah non, on ne peut pas établir ces permis-là parce que c'est illégal. Mais à partir du moment où ils n'ont pas dit ça, quand monsieur a parlé des cases d'un des ministres là, comment ça s'est terminé? On a recasé les gens et puis on les a indemnisés. Ça c'est clair. C'est le même cas. Il n'y a pas de demi-mesure puisque c'est l'État qui nous a laissé faire. Gouverner, c'est prévoir. Quand tu ne parviens pas à parvenir quelque chose, tu le corriges. Mais ils n'ont pas. Les autorités passées, je vous ai dit qu'on a rencontré le président, on a rencontré le ministre, on était clair et net. Donc, à partir du moment, je ne peux pas. C'est-à-dire, juridiquement, il n'y a pas les pièces à conviction pour prouver ça, mais on sait que ce que nous avons entendu et nous avons vu la réaction du maire, et ensuite, nous avons vu le trésor public encaisser nos sommes. Et jusqu'à présent, si on veut nous faire croire que nous sommes ceci, nous sommes cela, ce n'est pas la réalité. Et puis, quand ils ont commencé les cas, ils se sont arrêtés à Sirakoro. Pourquoi? Sirakoro vaut mieux que Niamakoro. Sirakoro n'a pas été cassé, Sirakoro n'a pas été cassé, et l'autre là aussi, Guanana aussi n'a pas été cassé. Je vous ai dit que Niamakoro était dans l'air rétroviseur. Ça, c'est clair et net.
Monsieur Konare, pensez-vous que c'était judicieux pour les autorités de la transition de créer une autre grogne sociale liée au foncier?
Non, moi je dis que la question, je ne vois pas sous cet angle, je vois sous l'angle de la légalité. Et je reviens toujours, je bondis sur sa question et pour lui dire que nous ne sommes pas forcément, je ne suis pas forcément en désaccord avec lui. Et il a des points sur lesquels nous nous retrouvons. Je suis parfaitement d'accord avec lui qu'il faut situer les responsabilités. C'est un titre qui appartient à l'État, qui a été morcelé par des représentants de l'État. Des permis ont été délivrés, la zone a été lotissée, des permis ont été délivrés et des frais d'utilité ont été également payés par les populations installées à l'État. Les trésors publics également à encaisser. En ce moment, j'interpelle vivement les responsables de l'État à travers le responsable du bureau spécialisé des domaines qui a fait les encaissements pour quelles raisons. Et également, quelque part, j'en veux également au service compétent de l'organisme qui ne doit pas permettre à un usager de construire sans permis. Ils sont payés pour ça. Ils sont payés pour ça. Ils utilisent les moyens de l'État pour mettre des brigades dans toutes les structures, au niveau de toutes les directions. Les brigades de contrôle sont là pour empêcher la construction des constructions et du moins pour empêcher de construire, de faire des constructions illicites. Ils étaient où en ce moment? Ils étaient où? Et quand les trésors publics encaissaient à travers le bureau spécial des domaines également, mais, et ce même directeur, il est où, le bureau spécial, il est où aujourd'hui? On ne peut pas encaisser sur quelque chose qui n'existe pas. Donc ça, c'est une violation flagrante des textes du secteur. Des textes du secteur, il n'y a rien à dire. Je n'ai pas les références, mais à la simple lecture, nous comprenons que quelque part, l'État a fauté à travers ses agents.
Comment l'État peut rattraper maintenant l'erreur commise?
Il y a deux possibilités. Ce n'est pas forcément l'État. C'est pour ça que je dis que quand il a un problème, ce n'est pas forcément l'État. L'État même est sujet du droit. Il faut qu'on se comprenne. L'État est sujet du droit. Les individus sont sujets du droit. L'État aussi est sujet du droit. Donc quand un tel problème se pose, moi je crois qu'il peut avoir la possibilité de saisir les juridictions compétentes pour statuer. Le maire qui est attribué sans titre, le régisseur ou bien le bureau spécialisé des domaines qui a encaissé les frais d'utilité sans fondement, sans base légale, mais il est poursuivable. Il est poursuivable. L'État peut dédommager également les personnes qui sont de bonne foi. Qui de bonne foi, vous comprenez très bien, ont payé et qui se sont installés. Ceux qui sont de bonne foi, ça c'est autre chose. Mais ceux qui sont de bonne foi, en réalité, l'État doit pouvoir les dédommager et se retourner contre ses agents fautifs. Je suis d'accord, c'est ce que je dis. Hein. Il y a une déformation professionnelle. Je dis que un commerçant, la population peut tricher, le commerçant peut tricher, mais celui que l'État a placé pour défendre ses intérêts ne doit pas tricher avec l'État, parce que l'État le paie. C'est ça, justement. Il doit avoir une sanction. Le commerçant, il a besoin.
Contre qui?
Et bien sûr, contre les représentants fautifs de l'État. Pas forcément l'État. L'État agit, c'est des gens qui ont agi au nom de l'État. Tous les problèmes, ce n'est pas forcément l'État. C'est des gens qui ont agi au nom de l'État. Ils sont connus. Le permis n'a pas été délivré comme ça. L'autorité qui l'a délivré est connue. La personne est là. Le service des domaines est là, vous comprenez très bien. Le bureau spécialisé des cadres, il est là. Et le maire en question, il est là. Les préfets ou sous-préfets qui ont morcelé, ils sont là. Il faut les traduire. Il faut qu'ils répondent leurs actes. À condition qu'ils prouvent réellement que c'est adossé à des textes. Si tel n'est pas le cas, ils doivent répondre. Mais entre-temps, les droits ne doivent pas pénaliser ces citoyens. Ils doivent les remettre dans leurs droits, quitte à ce même état de se tourner contre ces agents fautifs. Ça, c'est clair. Et en ce moment, la question, ce n'est plus l'État. L'État est sujet de droit, comme vous et moi. Maintenant, il appartient à la justice. Vous comprenez très bien de se prononcer sur la situation.
Alors, M. Bakary Sanogo, vous êtes membre de la coordination des dégâts. Donc, à qui en voulez-vous aujourd'hui?
Bon, moi, j'en vais aux autorités de la transition. Parce que sans l'accord du président, la casse n'aurait pas lieu. C'est lui qui a signé. Et avec la complicité du ministre des domaines, qui a préparé les faux documents
Donc vous pensez que les documents étaient faux?
Non, pas le document qu'on nous a remis. Hein. Oui. J'ai dit que ce qu'il a transmis au président de la transition, qui a vu ça et puis il s'est mis à signer. Il fallait ouvrir une enquête pour savoir de quoi il s'agit. Hein? La zone là n'allait pas partir ailleurs. C'est toujours là-bas. Après les enquêtes, se basant sur des fondements réels, là on pouvait comprendre. Et si on avait fait dans la règle de l'art. Parce qu'on devait faire la sommation aux habitants. Même s'ils n'adressent pas une lettre personnelle, ils savent qu'il y a des associations pour ça.
C'est donc vous avez été surpris par ça.
On a été surpris. C'est à 5h du matin qu'on nous a dit qu'il y a les machines près de l'entrée de Bamako, là. La grande porte qu'ils ont faite là, à côté de Niamakoro. Les machines ont passé la nuit là-bas.
Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que ces victimes-là deviennent, si on peut les appeler ainsi? Ils n'ont plus de maison. Où est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils deviennent?
Bon, ils sont désemparés. Ils savent pas. Il y a des, même si tu vas aujourd'hui, tu trouveras des gens qui vont dormir sur le site. Même aujourd'hui. Parce qu'ils ne savent où aller. Au moins, s'il y avait la sommation, donc ils allaient prendre des dispositions. Mais quand on casse brusquement comme ça, là, c'est pas facile. Le logement à Bamako, là, c'est pas facile. Donc, jusqu'à présent, il y a des familles qui dorment en clair lune là-bas.
Alors, M. Konare, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour ces habitants désemparés sur ce site?
Effectivement, dans le cadre, moi, je suis défenseur des droits de l'homme. Nous devons protéger les droits de l'individu. Il a le droit à la vie, à la santé, à un habitat, à une éducation. En tant que défenseur des droits de l'homme, excusez-moi, je vous l'ai dit, ça ne va pas. Il y a quelque part un peu de gêne. On pouvait trouver une autre façon que de mettre les habitations des personnes dehors, des enfants dehors.
Qu'est-ce que vous proposez?
Mais c'était bon quand même, comme il l'a dit, d'aviser, de faire des sommations. C'est vrai qu'il a eu des publicités, mais à la veille quand même, on pouvait le faire. Parce que quel que soit, quand on démolit, on expose d'autres populations à des dangers. Il y a une pandémie mondiale qui est là en réalité, quand les gens sont dans la rue, sans abri, comment les faire habiter? Il y a des mesures alternatives qu'on devrait prendre ou non, avant de les jeter dans la rue. Je suis d'accord que le titre, il y a problème sur ça, de toute façon, mais avant tout, c'est des êtres humains. C'est des êtres humains, ils ont des droits également, et ces droits méritent d'être juridiquement protégés par l'État. Et le minimum, c'est le droit à l'habitat, le droit à un logement. Voilà. Et quand ils sont privés de ces droits, et de cette manière, je crois que vous m'excusez, hein, c'est un peu déplorable. C'est pas forcément peut-être la raison qui parle, c'est le cœur qui est en train de pleuvoir maintenant. Vous êtes en train d'appeler à mes sentiments.
Monsieur Sanogo, maintenant vos maisons ont été démolies. Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous proposez?
Nous souhaitons que nous soyons dans nos droits. C'est ni plus ni moins. C'est-à-dire nous recaser sur les lieux, puisque la CAS n'a pas atteint son objectif. Pourquoi? On veut le savoir. Et si nous sommes des Maliens comme les autres, on doit nous mettre dans nos droits, en nous recasant et en indemnisant ceux qui ont fait des travaux sur leur site. C'est tout ce que nous demandons, qu'on soit recasé et qu'on indemnise ceux qui ont construit.
D'accord. Monsieur Konare, aujourd'hui, quand il s'agit de grogne sociale, les autorités de la transition disent généralement que cela ne fait pas partie de la gestion de ces grognes sociales-là ne fait pas partie de leur cahier des charges. Pensez-vous que cette opération qui s'est passée le 18 janvier dernier faisait partie aussi du cahier des charges des autorités de la transition?
Madame, j'ignore encore le contenu de ce cahier de charge. Ça dépend de la position que l'on se trouve. En tout cas, moi, je dis qu'on ne peut pas gérer sans risque. On ne peut pas gérer sans risque.
Pensez-vous alors que l'administration devrait passer à la démolition de ces maisons sans la décision de la justice?
Vraiment, vous posez une très bonne question. Une très bonne question. C'est, avant d'être là, c'est la question que je m'étais... Que je me suis personnellement posé. Est-ce que la démolition administrative ou passer par la voie judiciaire, mais j'ai compris que l'État a opté pour la démolition, la voie administrative. Vous comprenez, ils sont passés par la démolition administrative. Sinon, c'était bon quand même. Peut-être que les textes permettent aussi, je crois bien, les textes permettent. Certainement, vous m'excusez, le ministre des Domaines de l'État, il est sérieusement conseillé. Je connais ses conseillers juridiques qui ne sont pas les moindres quand même, qui sont des juristes chevronnés. Je pense qu'il a bénéficié quand même des conseils les plus utiles pour pouvoir prendre telle décision. C'était la décision de démolition administrative. Certainement que c'est prévu par les textes et bien encadré et qu'ils ont accepté cette procédure. Mais en la matière, moi je pense que même l'administration est partie. L'administration est partie. Quand elle pose un acte, elle n'est pas exempte de critique. Mais quand il s'agit de la justice, elle est impartiale, en ce sens qu'elle est animée par des acteurs indépendants qui sont en dehors du procès, qui ne sont ni partis. Ils sont au-dessus des partis, vous comprenez très bien. Ils jugent conformément au texte. Donc en ce moment, ils vont apprécier et rendre une décision. Vous comprenez ? Démolir ou ne pas démolir, parce qu'en ce moment, les deux auront les arguments en face, les deux parties. Les pièces que... Pourquoi nous sommes allés, voilà telle pièce que nous avons eu dessus. En vertu de ça, nous sommes installés. Et l'autre côté aussi, voilà, vous n'avez pas de pièces ou bien le support est faux. En ce moment, le juge, l'autorité indépendante déjà, statue. Et tout le monde sera plus à l'aise parce qu'on se reconnaît à travers la justice, on se connaît à travers les magistrats. Mais dès que c'est un représentant de l'État qui agit et qui donne l'ordre déjà, les administrés ne comprendront jamais. Donc c'est là où vous comprenez très bien quoi. J'ai du mal un peu à... Voilà.
Alors, monsieur Sanogo, vos maisons ont été démolies. Quelles sont les actions que vous allez mener après cette situation? Vous êtes érigé en association. Maintenant, vous allez mener quelles actions pour rentrer dans vos droits?
Bon, nous, on ne va pas se faire prendre au piège. Comme eux, ils ont fait là, sans discernement. Nous, nous allons chercher nos droits dans la légalité. On va le chercher jusqu'à notre dernier souffle, mais dans la légalité.
Quel est maintenant votre appel à l'endroit des victimes qui ont vu leur maison démolie?
Bon, je leur dis de prendre leur patience en mal, puisque ce qui est fait est fait. Tomber n'est pas grave, mais tomber n'est pas se relever, et à la fois l'une et l'autre. Donc, on espère que l'État reviendra à raison pour nous dédommager.
Alors, monsieur Konare, comme monsieur Sanogo vient de le dire, d'autres zones concernées par l'aéroport n'ont pas été touchées. C'est la zone de Niamakoro seulement qui a été touchée. Pourquoi cela? Niamakoro et Faladje. Pourquoi les autres zones n'ont pas été démolies selon vous?
Bon, madame, je vais me forcer à répondre à la question. Je crois qu'on avait bel et bien dit que le ministre dit que c'est sur 1200 hectares d'abord que les premières opérations vont s'effectuer. Si on essaie de voir, cette opération de démolition n'a pas commencé aujourd'hui. Et si mes notes sont bonnes, je crois que depuis 2019, 300 agents des forces de l'ordre étaient installés auprès de l'aménagement pour empêcher les constructions illicites. Quand ils ont été dégagés et qu'ils se sont abstenus d'aller sur les lieux, je ne sais pas les raisons, c'est en ce moment que les constructions ont été développées de façon exponentielle. Les titres ont été créés, les gens ont commencé à investir, vous comprenez, à construire. Voilà un peu le résultat.
D'accord. Maintenant, est-ce que la démolition des maisons, on peut s'attendre à ce que les maisons qui sont installées sur les rails puissent être concernées par cette opération? Il y a des maisons qui sont construites sur des rails vers la zone de la commune. Et il y a des maisons, pratiquement des rails qui ont été retirés pour construire des maisons. Par exemple, aussi dans la région de Kulikoro, beaucoup de maisons sont installées sur les rails. Est-ce qu'on peut s'attendre aussi à ce que ces maisons soient démolies et que la zone de la chemin ferroviaire soit remise dans ses droits?
Madame, je suis d'accord avec vous, hein, parce qu'il faut désamorcer la bombe foncière, comme je l'ai dit. Il faut anticiper. Effectivement, les gens se sont installés sur l'emprise des rails. Ce n'est pas normal. Et c'est les mêmes maires qui ont attribué, sans titre ni droit, qui ont morcelé ces parcelles. Je prends un exemple très frappant, hein, le cas de Tabakoro, les logements sociaux. C'est le même cas. C'est une NTF appartenant à l'État qui a été affectés uniquement pour construire les logements sociaux. Et cette parcelle, aujourd'hui, ce domaine-là, aujourd'hui, est occupé de façon illicite par les populations.
qui disent que les vrais occupants ne sont pas venus s'installer.
Voilà, ils sont partis comme ça, les gens sont partis, ils ont tout occupé. Ils ont tout occupé. C'est ça également le problème. Quelque part, l'État, c'est ce que j'ai dit, l'État est un peu responsable à travers ses agents. Ça, il faut le dire. Logiquement, on ne doit pas pouvoir construire sans une autorisation de construire. Les brigades doivent pouvoir veiller quotidiennement. Tu as vu les opérations des fois où le service de l'urbanisme se promène avec les brouillettes, avec des véhicules. Vous comprenez très bien. Ils ont une brigade spéciale pour ça, payée par l'État, avec les moyens de l'État également, pour empêcher de telles constructions. Donc on ne doit même pas arriver à ces constructions si réellement elles étaient illicites. Quelque part, un pan de l'État a failli. C'est cette ressemblance qu'il faut également situer. Je n'ai pas dit que ceux qui sont installés ont totalement raison ou bien qu'ils ont totalement tort. Mais je dis qu'il a des responsabilités de part et d'autre qu'il faut situer obligatoirement.
Monsieur Sanogo, qu'est-ce que vous reprochez à l'État quand vous voyez la situation de la spéculation foncière au Mali?
Bon, ce que je reproche à l'État, c'est, je ne sais pas, c'est l'inexpérience ou bien c'est la volonté de faire du mal, qu'on laisse les gens s'installer et ensuite on vient passer. Parce qu'il y a des budgets qui vont dans ça. Alors qu'avec un dixième de ça, on peut empêcher les gens à construire. Donc l'État est fautif à 100%. Parce qu'il laisse les gens s'installer au vu et au su de tout le monde. Et quand et ça arrive à un stade, quand ils ont besoin de cette terre-là, ils viennent faire de n'importe quoi. L'État, l'État, c'est qui? C'est nous. C'est la population. L'État n'est pas les responsables de la question en haut. Hein. L'État, c'est nous. Donc, moi, je demande à l'État, désormais, de prendre ses responsabilités. L'État n'a pas été responsable dans notre situation.
Les pertes, vous les estimez à combien de millions,
par exemple? Milliards en millions. Il y a eu des étages, des trois étages qui ont été cassés. Hein? Il y a eu des villas, celui qui est avec moi là. Il a construit sa villa à 30 millions. Ça, c'est le villa, alors qu'il y a des étages, des trois étages, deux étages qui ont été cassés. De Niamakoro jusqu'à Faladje. Des chaînes de magasins, ainsi de suite. Donc, on ne peut pas estimer ça à des millions, à des milliards.
Monsieur Konare, ceux qui ont construit sur ces sites ont perdu de l'argent. L'État, qu'est-ce que l'État perd?
Mais l'État doit frapper dans le portefeuille des délinquants qui ont donné ces titres-là en réalité. Les dédommager eux d'avoir ce que je leur dis à l'entente de mes propos, dédommager les victimes et taper dans le portefeuille des gens qui ont délivré ces faux titres. Et ces agents aussi qui devaient jouer leur rôle, qui ne l'ont pas fait à temps. Parce que je vais vous poser, ça va vous surprendre un peu. Hein. Il y a deux ans, ce sont les mêmes services techniques qui étaient là-bas qui ont laissé ces zones-là partir comme ça. C'est le même, receveur du bureau, le même receveur des domaines qui a encaissé les frais d'utilité là. Il a encaissé. Pourquoi il l'a fait? Sachant très bien que pour pouvoir encaisser, c'est ce que je vous dis, il doit avoir d'abord le décret affectant la zone, et le plan de lotissement également du maire, approuvé par les services techniques compétents, et l'arrêté du gouverneur. C'est au regard de tous ces éléments qui lui doit pouvoir permettre l'autorisation du paiement des frais d'utilité. Il ne l'a pas justifié, il l'a empoché. Pourquoi il l'a fait? C'est pourquoi je dis qu'attention, je ne veux pas caresser quelqu'un. Nous parlons pour le peuple malien, nous parlons pour cette population. Nous voulons qu'elle juge, qu'elle nous juge à travers ce que nous disons. Vous comprenez? Et pas à travers notre position. Moi, je ne veux pas parler avec le cœur ici. Hein. Je veux être impartial, d'ailleurs je le suis. Vous comprenez? Donc, moi, je pense qu'en réalité, les agents de l'État ont été fautifs. Et au moment où on était en train de faire ces lotissements, au moment où on est en train de faire ces réalisations, au moment où on est en train de faire ces constructions, ils étaient là-bas, ils étaient en train de percevoir. Qu'est-ce qu'ils ont posé comme acte? Maintenant, on se casse devant la transition pour devenir un homme maintenant, pour dire qu'on a cassé. Et hier, qu'est-ce qu'on avait fait? Qu'est-ce qu'on avait fait hier pour empêcher? On a même pris illégalement des sous. Et ces mêmes responsables sont là-bas encore au niveau des domaines et de l'urbanisme. C'est là en réalité où l'État doit sortir les grands moyens. On doit pouvoir nettoyer Si tu es responsable, nettoyer et au besoin, traduire les coupables devant la justice. C'est ce qu'on doit faire.
Ce nettoyage doit commencer où?
Mais les structures, je vous dis, madame, c'est très simple. Il n'y a pas de responsabilité. Hein. Les domaines ont péché, les domaines ont géré, les domaines ont péché. L'urbanisme a géré, l'urbanisme a péché. Le ministère de l'administration territoriale a géré, il a péché. Les préfets qui sont là-bas qui ont morcelé, les maires qui ont morcelé, mais ils relèvent bien sûr du ministre de l'administration territoriale. Quelles sanctions le ministre de l'administration territoriale a pris contre eux? Vous avez eu connaissance? Attention, il y a un problème. Mais il faut qu'on ait quand même le courage de le dire en tant que malien et en bon malien. Il ne s'agit pas de plaire ou déplaire à quelqu'un. Il s'agit de plaire à la conscience et à l'État en disant du droit, en disant la vérité.
Monsieur Sanogo, les décombres, vous êtes parvenu à en tirer quelque chose?
Pratiquement rien. À partir du moment où il y avait 6 bulldozers pour démolir. À part les enfants qui vont maintenant pour faire sortir les fer, les morceaux de fer et consoles là, pour aller les vendre. Sinon, il n'y a pas quelque chose qu'on a pu tirer.
Monsieur Konari, qu'avez-vous à dire par rapport à ça?
C'est dommage. Quand on fait des années de réalisation, d'investissement, c'est comme on est prêt, on met le milliard dans ta maison. Tu mets le milliard dans un investissement de milliard, un milliard d'investissement, tu es prêt, tu veux profiter. En rentrant, on dit que non, la maison n'est pas pour toi. Vous voyez ce que ça fait? J'ai compris également qu'il y a des gens en réalité qui ont travaillé dur pour avoir ces besoins. Et si en une journée, ces maisons-là doivent partir en fumée, je me mets à leur place. C'est pas facile. Et c'est pour ça, quelque part, je sollicite que l'État fasse un minimum d'accompagnement, comme cela a été dit même dans la note technique du conseil technique chargé des questions domaniales au niveau du ministère des Domaines et de l'Urbanisme.
Alors, à quoi on doit s'attendre maintenant de la part des autorités? Ils ont démoli, donc tout est fini, ou bien ils vont encore revenir sur leurs actions?
Revenir comment? Sur quelle action?
Comme vous l'avez dit, vous attendez à ce que les victimes soient dédommagées. Pensez-vous que l'État va s'arrêter là à cette démolition, ou bien, comme vous l'avez dit, l'État va faire parler son cœur?
Non, moi je dis que moi je parle en tant que défenseur des droits de l'homme.
Oui. Vous ayant observé la situation, que pensez-vous que l'État va faire?
En tout cas, moi j'ai du mal à comprendre que des enfants, les images que j'ai vues, des orphelins, des enfants de 6 mois, 7 mois, des personnes de 80-80, que l'État même doit pouvoir assister, que l'État mette ces mêmes personnes-là dehors. Ailleurs, il y a des maisons de retraite. On respecte les enfants. On respecte les femmes dans les pays les plus développés, les pays les plus démocratiques. On respecte également les vieilles personnes, ils ont des droits. Et leurs besoins même sont transformés en droits, si vous voulez comprendre. Les besoins d'un enfant sont des besoins transformés en droits. Les besoins d'une femme sont des droits. Les besoins des personnes âgées aussi sont des droits. Et quand on voit ces mêmes personnes, quelle que soit la manière par laquelle ils ont été expulsés, quand on les retrouve dehors dans des conditions telles que nous venons de constater, je crois que c'est déplorable, madame.
Nous arrivons à la fin de cette émission. Monsieur Sanogo, vous qui êtes membre de l'association, enfin secrétaire général de la coordination des maisons démolies au niveau de la zone de Nyamakoro, quel est votre mot de fin?
Bon, le mot de la fin, avant d'arriver à ça, je tiens à préciser que tous les travaux effectués sur le site ont été faits avec l'administration. Nous avons des aires de mission, il y a des représentants de la topographie et de la cartographie, il y a des représentants de la, des techniciens des domaines. Si vous en avez besoin, je peux vous donner des copies d'ordre de mission qui prouvent que nous ne sommes pas installés comme ça. On a travaillé avec l'État, avec les services techniques de l'État sur le terrain. Donc vraiment, c'est le dernier mot que moi j'ai à dire, j'appelle l'État, les responsables de la transition à la raison. Ils ont fauté, qu'ils le corrigent, monsieur, avant qu'il ne soit trop tard.
Monsieur Konare, pour terminer.
Merci madame. Je voudrais bien aider les victimes. Je voudrais bien les aider. Mais je ne veux pas les aider contre l'État. Je veux tout simplement les aider contre leur cœur. Et pour cela, je les invite, pour toute action à venir, à saisir les juridictions judiciaires compétentes. Je crois que c'est c'est dans ça, en réalité, que le salut peut venir. Merci.
Merci à vous. Nous arrivons au terme du grand dialogue de ce soir. Le thème était « Démolition des maisons dans la zone aéroportière. Quelles leçons faut-il en tirer ?» Et comme invité, on avait M. Sekou Konare, secrétaire général de l'Association malienne des droits de l'homme, et M. Bakary Sanogo, secrétaire général de la coordination des déguerpis de la zone de Niamakoro. Moi, c'était Mariam Koulibaly pour présenter ce débat. Merci et à demain.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba. Et Dewani wa Makara.
Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri.
Halou Dumondi.
Chenne Beri. Sigi Kafoba.